religions du monde, Geneviève Delru.
Composer un requiem à la mémoire de ceux que le Covid a emportés, mais aussi célébrer le retour à la vie et appeler à la concorde entre les hommes. Requiem 19-19 en référence à 2019, le début de la crise sanitaire, est chanté et joué pour la première fois ce week-end en l'église Saint-Médard, dans le 5e arrondissement de Paris. Et ce dimanche, le concert a donc lieu à 15h. Le compositeur Laurent Couson a écrit Requiem 19 au printemps 2020 en plein confinement. Pianiste, compositeur, chef d'orchestre, Laurent Couson est un musicien très éclectique. Il a écrit notamment de nombreuses musiques de films. Travaillé par les textes de la Bible, il s'est inspiré du mythe de la tour de Babel que l'on retrouve dans les trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes. D'où les chants en trois langues, l'hébreu, le latin et l'arabe, à l'heure où l'humanité est appelée à se retrouver, à s'écouter et à se comprendre. Laurent Couson, rencontré cette semaine au cours d'une répétition.
Cette crise nous a amené des milliers de morts et c'était une manière de leur rendre hommage, mais aussi en rassemblant des textes des différentes religions, c'était de pouvoir réunir de nouveau les hommes et qu'ils aient le plaisir de se retrouver ensemble. Si on peut sortir, entre guillemets, gagnant de cette crise, c'est en essayant d'avoir une renaissance qui permette de revenir vers l'autre sans peur et surtout en appréciant sa différence et sa diversité.
Est-ce que cela veut dire que nous avons vécu une sorte de moment de fraternité, un moment de communion finalement universelle, mondiale, dans la mesure où tous les pays ont été touchés, et qu'aujourd'hui, c'est le moment d'aller plus loin dans cette fraternité? C'est en tirer les leçons en quelque sorte?
C'est peut-être aussi en tirer les leçons. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le symbole Babel dans l'œuvre, parce que à Babel, c'est un peu comme dans le Covid, où on nous a dit, restez tous enfermés chez vous, portez des masques, faites les mêmes gestes barrières. À Babel, on demande aux hommes de parler une langue commune, d'aller tous dans le même sens et d'essayer de monter le plus haut possible. Et ce qui se passe, c'est que la tour va être détruite pour que on fasse éclater cette unité et que les hommes retrouvent le plaisir d'aller vers leur semblable parce qu'il est différent de lui, parce qu'il parle une autre langue et parce qu'il pense autre chose.
Il y a plusieurs interprétations de Babel. Vous prenez laquelle en fait ?
Oui, c'est un symbole qu'on retrouve dans les trois livres et c'est vrai que les trois religions ont des interprétations assez différentes. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, c'est le langage commun surtout qui est pointé du doigt et qui doit être éclaté. Il est très important que chacun ait, on voit la métaphore à travers la langue c'est l'individualité aussi. C'est vrai que dans le catholicisme, il y a aussi le péché d'orgueil. Le péché d'orgueil, c'est celui de vouloir tutoyer Dieu, sans rapprocher, le voir, le toucher. Donc c'est un symbole qui est très très fort parce que je crois que c'est une correspondance par rapport à la crise qui vient de nous arriver et j'espère que l'après-Babel, c'est celui d'aimer se retrouver tous ensemble, quelles que soient ses origines, sa religion, son état.
Donc ici à Saint-Médard, pourquoi ? Parce que c'est une église qui vous parle, c'est un lieu que vous connaissez bien.
Oui, j'aime beaucoup cette église parce que déjà je suis un habitant du 5e depuis 20 ans, donc c'est aussi ma paroisse et c'est un endroit où je me sens bien parce que c'est une église qui à la fois dégage une extraordinaire chaleur humaine, je trouve, qui est historiquement chargée aussi de symboles, que ce soit des symboles parfois justement d'affrontements aussi interreligieux et parfois après de communion et de paix. Et puis il y a une autre raison, c'est que quand on était enfermé pendant le Covid, je faisais mon petit tour des 1 km carré autour. Moi j'habite rue d'Aubenton juste derrière l'église et je voyais à Saint-Médard tous les jours des repas distribués aux sans-abri qui ont été quand même extrêmement abandonnés pendant cette crise. Et ici à Saint-Médard, tous les jours il y avait des distributions de repas, des aides. Donc j'ai trouvé cette église extrêmement symbolique aussi.
Alors, les représentants des diverses religions seront présents.
Oui.
Ça représente quoi pour vous ?
Ça représente un symbole très très fort. Je suis heureux qu'il se rassemble aussi autour d'une œuvre musicale parce que je crois très fort que la musique est un vecteur de paix et un vecteur de rassemblement. Donc je suis heureux qu'ils aient accepté de le faire dans le cadre d'un concert, car c'est avant tout un concert, et qu'effectivement des dignitaires religieux au plus haut niveau aient eu envie de se rassembler, de s'asseoir les uns à côté des autres pour écouter une œuvre qui chante dans les langues des trois grands livres saints.
C'était difficile pour les chanteurs, pour les choristes précisément, de chanter en hébreu par exemple, qui n'est pas leur langue maternelle.
Oui, bien sûr, c'est vrai que les choristes sont beaucoup plus habitués à chanter en latin parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres du répertoire en latin. Et puis le texte du Requiem, c'est quelque chose qui est familier à des choristes parce qu'ils ont tous chanté déjà des Requiem. Il y en a de tellement beaux. En revanche, oui, l'hébreu et l'arabe sont beaucoup plus difficiles pour eux. Donc on a travaillé en phonétique. J'ai travaillé bien évidemment avec des natifs qui ont enregistré les lignes mélodiques dans la langue et que j'ai fait écouter aux choristes de manière à ce qu'ils puissent le reproduire.
Mais c'est presque bien, mais je ne comprends pas. Il faut accentuer le A parce que sinon je ne comprends pas. Une avant.
Ça sera l'œuvre de votre confinement ?
Oui, c'est l'œuvre du confinement. Écoutez, quand on s'est retrouvé enfermé comme ça, je me suis posé la question à quoi un artiste peut servir, quelle peut être mon utilité dans une crise majeure comme celle-là. Et voici modestement une des réponses, c'est-à-dire j'ai envie de penser que l'art, c'est aussi quelque chose qui est utile à la société. Et en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire avec cette œuvre. C'est une vraie œuvre de rassemblement. Elle va au-delà de la musique, elle va au-delà des mots. Et elle est surtout là pour servir surtout des textes qui sont d'une grande force et dont nous avons, je crois, plus que jamais aujourd'hui besoin.
C'est un appel à les redécouvrir ?
Oui, à les redécouvrir, les apprécier, les relire. Et vous savez, moi, j'ai tendance personnellement, quand je traverse une crise, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit extérieure à moi, c'est vrai que souvent les écrits religieux m'ont donné la voix. Voilà, m'ont donné la voix parce que voilà, ce sont des livres où quand même tout a été dit, fortement bien analysé et toutes les solutions sont dedans.
Oui, parce qu'effectivement, dans tout ce que vous avez pu composer, c'est une première si je ne m'abuse, non ? Vous avez composé des musiques de films, vous avez composé des choses tout à fait différentes. Là, c'est une première, cette création à caractère religieux.
Oui, j'y pense depuis longtemps. Et c'est toujours difficile de se jeter à l'eau parce que ce sont des textes impressionnants de par leur force et le langage musical qu'on y adosse, une grande importance. C'est difficile à faire, il faut trouver le ton juste et donc on met un moment à le faire. Mais vous savez, si vous regardez tous les grands compositeurs, leurs œuvres religieuses sont souvent des œuvres de maturité, pour aussi cette raison-là. Le Requiem est construit en 9 parties, qui s'ouvrent donc par Babel, que d'ailleurs nous chantons en français, parce que je voulais que tout le monde ici en France en comprenne le sens. Et à la fin de Babel, c'est l'éclatement du langage, donc c'est à partir de là que nous allons chanter en latin, en hébreu et en arabe. Ensuite, ce qui se passe à l'après Babel, c'est cette destruction. Et cette destruction, elle est suivie. Je me suis servi des épisodes du Requiem latin, qui sont des épisodes violents, du Dies Irae, du Tuba Mirum, du Lacrimosa. Et puis, j'ai demandé effectivement à Mohamed Ennadji, le poète, de faire une correspondance arabe un peu à ce Lacrimosa. Il m'a écrit ce très beau texte, Kobur, qui veut dire nos tombes. Et la solution, elle arrive à la fin du Requiem. C'est comme un film, je ne devrais pas révéler la fin, parce que c'est vrai que ce Requiem est finalement assez opératique dans sa construction, c'est-à-dire que je veux raconter une histoire. Et la solution de tout ça, c'est celle qui est apportée dans le Cantique des Cantiques, où j'ai choisi trois des vers les plus célèbres, où la solution est toute simple: seul l'amour est plus fort que la mort.
Le piano est l'instrument clé de ce Requiem 19 qui l'accompagne depuis le récit de la Tour de Babel au Cantique des Cantiques. Alors comment Clément Ratteau, jeune pianiste de 28 ans, a-t-il reçu la première lecture de la partition ?
C'est difficile au début quand on voit la partition, parce que c'est une nouvelle partition dans un style que je ne connaissais pas encore. Mais c'est que du plaisir. Sincèrement, de travailler avec Laurent, travailler avec les compositeurs quand ils sont encore vivants, c'est vraiment incroyable l'échange qu'on peut avoir. La création se fait aussi avec l'interprète. Et moi personnellement, j'adore. On a l'impression d'être dans le vrai, d'être dans du vivant, d'être dans du concret. L'œuvre n'est pas encore créée. Et donc jusqu'à la dernière seconde de la création de cette œuvre, donc samedi, eh bien, il peut y avoir des ajustements, des changements sur la partition pour la rendre plus agréable, plus vivante finalement et plus en lien avec les possibilités qu'on a, nous interprètes, de faire cette œuvre. Et Laurence le permet à chaque répétition, il entend quelque chose, l'œuvre continue de se composer en fait en même temps que les répétitions ont lieu. En plus, c'est une œuvre tellement généreuse avec tellement d'instruments en même temps qu'il y a un sentiment de plénitude quand on joue ça qui est vraiment très agréable.
Quand vous parlez d'œuvre généreuse, pourquoi ?
Généreuse en notes, parce que c'est très plein. Laurent remplit vraiment des harmonies superbes. Il va dans des extrêmes au niveau des nuances. Et au piano, on sent qu'on en a plein dans les doigts, en fait. Vraiment, c'est très généreux au niveau du toucher qu'il faut essayer de trouver. Donc, c'est assez agréable à jouer. On a l'impression d'être immense sur le piano.
Et le sens du texte,
hein. Lorsque Laurent m'a contacté, c'est la première chose dont il m'a parlé. Et tout de suite, ça m'a touché. Enfin, ce message de paix autour d'un requiem sur les trois religions, forcément, c'est un projet ambitieux, en tout cas qu'on a tous envie de défendre, je pense.
Deux ensembles vocaux, Pro Amine et Alfine Voce, sont réunis sous la houlette de la chef de chœur Marie-Christine Pantier. Les choristes, une cinquantaine au total, sont des amateurs chevronnés. Seuls quelques choristes sont professionnels, comme le ténor Jérôme Verrecchia.
J'ai 34 ans, je suis chanteur professionnel. Et en fait, je connaissais le chœur Pro Amine, car j'avais chanté très souvent avec eux. Je faisais partie de ce chœur avant, j'ai chanté beaucoup de solos avec eux. Et donc, c'est moi qui ai présenté à Laurent ce chœur. Et donc, voilà, je pense que c'est un vrai plaisir pour tout le monde de faire cette œuvre. Voilà.
Alors, cette œuvre, qu'est-ce qu'elle vous dit précisément ? En général, alors, vous chantez, vous êtes dans quel style ?
Oui. Alors, moi, évidemment, chanteur lyrique, donc surtout les styles opéra, le lead. Là, c'est de la musique qui s'apparente à de l'oratorio, hein, c'est contemporain, mais c'est de la musique vraiment d'église sacrée. Et donc, ça m'évoque vraiment le rassemblement des religions. Voilà, moi je pense vraiment à ça, et pour ça c'est très intéressant.
Il y a des moments où on chante en hébreu, d'autres moments où c'est en latin, d'autres moments en arabe. Oui. C'est une première pour vous, ça ?
Ah oui, 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 complètement. Latin, évidemment, non, parce que c'est très fréquent. Oui. Français non plus, évidemment, mais hébreu et arabe, ça, c'est une première.
Difficile ou pas ?
C'est pas évident, mais bon, c'est comme toutes les langues, hein, une fois qu'on a compris les petites consonnes, voyelles, la façon de prononcer, bon, ça va tout seul, quoi.
De chanter avec des non-professionnels ?
Oui, alors ça, c'est quelque part quelque chose de génial, hein, c'est le cœur, c'est-à-dire que plusieurs voix, quels que soient les niveaux, se mettent ensemble et on peut avoir une magie qui opère à condition que tout le monde fasse attention à la justesse. Voilà. Bon, après, le travail du chef de chœur est énorme. Et c'est super, c'est la magie de la voix.
Encore plus lâché à la fin. Ah, jusqu'au cri. Vraiment jusqu'au cri. Donnez tout ce que vous avez. Après, vous avez un long temps de repos, hein, avec le tambour. Donc, ah, on le fait sur ta chaîne d'une petite fois. On le fait sur... David Sibylla, 154. Lumières. 1, 2. Beaucoup plus impressionnant, d'accord ?
Suite de la répétition à 4 jours de la première qui a donc eu lieu hier soir. La chef de chœur, Marie-Christine Pantier, une boule d'énergie, tressaille, sursaute, demande à ses choristes d'ouvrir grande la bouche, d'articuler, d'oublier les masques portés au cours de l'année pendant les répétitions. Alors comment aborde-t-elle cette œuvre ?
C'est une œuvre qui m'a séduit d'emblée quand je l'ai lue, quand je l'ai regardée, parce que c'était une œuvre, oui, assez novatrice, assez originale, par les styles différents qu'elle met en évidence. On sent la patte du compositeur de musique de film, mais aussi on sent aussi que Laurent a une culture musicale, il emprunte à la tradition totalement, avec les passages fugués, les entrées en imitation, enfin la grande tradition des grands compositeurs. Bach et tous ceux qui ont suivi. Donc c'était ce mélange déjà intéressant et puis également la grande force, la grande puissance de par le côté communique de l'œuvre et vraiment ce rassemblement des trois grandes paroles des religions monothéistes. Donc ça m'a semblé très fort et très porteur de messages et voilà. Donc ça a été une œuvre assez difficile à monter parce qu'on l'a montée dans des conditions terribles avec masque et voilà. Mais ça me semblait très très important de monter cette œuvre dans ce moment-là particulier. Ça a été un petit peu une façon de montrer avec tous mes choristes qu'on continuait de chanter. C'était une sorte de pied de nez un petit peu, cette maladie. C'était une façon de lui montrer qu'au bout du compte, c'est la vie qui allait gagner. Mais ça a effectivement été assez complexe et ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et de motivation de la part de tous, mais c'était le cas. On était tous très, très, très à fond.
C'est donc la paroisse Saint-Médard qui accueille ce week-end les deux premières de Requiem 19. Cette église du XVe siècle, au bas de la célèbre rue Mouffetard, a une histoire agitée. Et son curé, le père Albert Gambard, nous dit être touché que les deux premiers concerts aient lieu dans son église.
J'ai été touché, d'abord parce que le langage des artistes est très important pour exprimer quelque chose au-delà des rapports médicaux. La deuxième chose, c'est que le Covid lui a inspiré une œuvre que je trouve vraiment dans le sens de la vie. et que cette œuvre, enfin, il a eu envie de la donner à Saint-Médard, qui n'est pas l'église la plus prestigieuse de Paris, mais qui est une église qu'il apprécie vraiment. D'autre part, hein, moi, ça m'a touché aussi parce que cette église Saint-Médard, je ne vais pas vous en faire l'historique parce qu'on n'aurait pas le temps, mais elle a subi tellement de révolutions, tellement de conflits et qu'elle est toujours là debout, elle est pour moi un signe d'espérance.
Oui, effectivement, les protestants, à un moment donné, ont essayé de la détruire.
Il y a eu un gros conflit protestant-catholique, mais qui était de l'ordre d'une colère, quoi, d'une flambée de violence. Et le feu y a été mis, oui, elle l'a brûlé. Et puis il y a eu tout l'épisode des convulsionnaires de Saint-Médard. Et en fait, c'est une histoire, il faudra aller voir ce que ça veut dire, mais c'est une église qui a eu des épisodes historiques très mouvementés. Et cette paroisse a accueilli Sœur Rosalie, qui dans ce quartier était un véritable apôtre auprès des gens dont personne ne voulait plus. Ceux qu'on ne visitait jamais. Et donc, du coup, cette église Saint-Médard, elle a un ancrage dans Paris qui me paraît fondamental.
Donc ça, c'est sûr, effectivement, sur votre église, hein, l'église Saint-Médard, et sur l'œuvre, sur le contenu de ce Requiem 19, mon père.
Le fait que le Requiem 19 regroupe des textes hébreux, latins et arabes m'a beaucoup marqué parce que nos trois grandes religions, le meilleur de ces trois grandes religions, c'est le bonheur de l'homme. Et non la violence entre les gens qui ferait qu'on cherche à s'autodétruire et à détruire l'autre. J'ai trouvé que cette intuition de réunir sous une même voûte une œuvre qui rassemble ces trois langues maternelles dans le contexte de Babel où on cherche tous un univers commun et uniformisé, j'ai trouvé que l'intuition de Laurent était tout à fait forte par rapport justement à l'effort des trois religions pour que la paix vienne dans le monde.
Le mot de la fin du père Albert Gambard, curé de la paroisse Saint-Médard, où se tiendra cet après-midi à 15h le Requiem 19 de Laurent Couson. À la rentrée, Requiem 19 sera chanté à la synagogue Copernic à Paris et en décembre à l'Opéra de Bordeaux. Pour plus d'infos, www.requiem19.fr. Dans une société moderne, publiée aux éditions Salvator, c'était une grande réflexion historique, religieuse, théologique qu'invite le livre de l'archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal Joseph de Quesel. Monsieur le cardinal, bonjour.
Bonjour, bonjour madame, oui.
Merci pour cet entretien donc en ligne de Bruxelles. Alors partant du constat que l'Église catholique en Occident ne vit plus dans un environnement religieux, chrétien, que cette situation est irréversible, vous posez là la question de la place et du rôle que peut avoir l'Église dans une société sécularisée. Votre réflexion effectivement est très claire, hein, vous dites très nettement « c'est irréversible ». Pourquoi la publier aujourd'hui, je dirais, de cette façon? Est-ce que c'est pour répondre à la frange des catholiques qui sont inquiets, qui se disent eh bien, qu'il faut aujourd'hui re-christianiser? Est-ce que c'est pour ça que vous avez effectivement fait cette démarche?
Non, je ne crois pas. Je ne cherche pas la polémique. C'est simplement, ce sont des idées et des questions qui me travaillent déjà depuis longtemps. Depuis les années 80, j'ai dû enseigner pendant pas mal d'années la théologie, aussi l'ecclésiologie, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que ça va mal avec l'Église, et c'est vrai, nous sommes en crise, l'Église traverse une crise, mais j'ai la conviction que la raison fondamentale de cette crise, c'est le changement dans la société elle-même. C'est une société qui a changé. Nous sommes évolués d'une société religieuse chrétienne pendant des siècles, ici en Occident, à une culture chrétienne où le christianisme était la religion culturelle. Et nous sommes évolués, ça a pris du temps, vers une société sécularisée. Et j'ai vraiment l'impression qu'il faut accepter cela et comprendre que l'Église ne vit pas nécessairement dans un monde chrétien. Je sais bien que c'est très confortable pour l'Église de vivre dans un monde chrétien. Mais là aussi, il y a eu des problèmes dans le passé, hein, parce que là, à ce moment-là, il y a la question du pouvoir, etc., de l'Église. Mais maintenant, l'Église doit résolument se situer dans un contexte pluraliste, sécularisé, mais tout en restant fidèle à son identité. Donc il y a toujours les deux pour moi. Hein, ce n'est pas, je ne fais pas l'éloge de la sécularisation, c'est notre situation, et elle a beaucoup d'avantages aussi, non seulement pour la société, mais aussi pour l'Église. Et donc, je crois que l'Église, résolument, doit se situer dans ce contexte-là.
Monsieur le cardinal, dans la première partie de votre livre, qui consacre d'ailleurs une large part à l'histoire, et c'est très intéressant, vous insistez beaucoup sur le terme « religion culturelle ». Le christianisme a été une religion culturelle. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
Eh bien, quand on voit l'histoire de l'humanité, avant l'avènement des Lumières, si je peux m'exprimer comme ça, ou de la culture moderne, toutes les cultures ont toujours été des cultures religieuses. C'est-à-dire, dans la culture, il y a une place centrale pour la religion. C'est finalement la religion qui inspire tout ce qui est nécessaire pour construire cette culture. Hein, aussi bien la pensée, la morale, même l'ordre politique, même l'art, etc. Tout ça est imprégné par la conviction religieuse. C'est le cas, par exemple, dans différents pays aujourd'hui encore, des pays musulmans, où c'est l'islam qui porte cette culture, qui n'est pas seulement une dimension de la culture, mais qui est l'âme de la culture. Cela a été le cas pour le christianisme après l'Antiquité. Et donc, pendant des siècles, le christianisme a été ici la religion culturelle, c'est-à-dire c'est pas simplement la religion de certains citoyens à l'intérieur de la culture, mais de la culture elle-même. Ce qui veut dire que nous vivons, ça ne veut pas dire que tout le monde est vraiment des croyants, convaincus, etc., mais le cadre de référence, c'est le christianisme, c'était le christianisme. On vivait dans un monde chrétien. Et donc, le christianisme n'est pas seulement l'option de certains citoyens à l'intérieur de la culture, mais de la culture elle-même. Et c'est cela qui a changé. Hein? Le christianisme n'a pas disparu, pas du tout. Mais le christianisme n'a plus cette fonction sociétale. Le christianisme n'est plus religion culturelle. Parce que c'est le propre d'une culture sécularisée qu'il n'y a aucune religion qui a une position dominante. Et donc, une culture sécularisée, c'est une culture nécessairement aussi inévitablement pluraliste. Il y a différentes options et la culture moderne nous offre le cadre de vivre en paix, mais de vivre et d'accepter que nous sommes différents.
Monsieur le cardinal, à quelle période, à quel moment exact situez-vous finalement cette entrée dans la sécularisation ?
Oui, ça, évidemment, cette entrée est un phénomène complexe. Hein.
Oui.
Ça a demandé, je dirais même des siècles.
Des siècles, oui.
Pour moi, la date la plus symbolique et la plus cruciale, à mon avis, c'est 1648. C'est la paix de Westphalie. Hein, c'était la fin des guerres de religion ici en Occident. On ne s'imagine plus ce que ça a été hein, à ce moment-là. Hein, il y en a qui même parlent de la Première Guerre mondiale. Hein. C'était toute l'Europe qui était en guerre hein, à cause du pluralisme. Et donc, à un certain moment, en 1648, on a décidé on ne va plus se battre. Et c'était le début de la tolérance.
Donc cela avant les Lumières, donc.
Avant les Lumières, bien sûr. Mais les Lumières ne sont pas tombées du ciel non plus, hein, pour ainsi dire. Hein, c'est un processus. Le changement d'une culture, le changement d'une culture. Par exemple, si on voit la période après l'Antiquité Et la naissance d'une culture chrétienne, ça a demandé des siècles, même 4 siècles. Ce n'est qu'à partir du 10e siècle qu'on peut dire que l'Occident est chrétien. Mais donc, le changement de la culture médiévale chrétienne vers une culture sécularisée, ça a demandé des siècles. Il faut bien savoir que même, on a avec l'Église catholique encore combien de problèmes encore au 19e siècle vis-à-vis de la culture moderne. L'Église a eu très très difficile à accepter cette culture. Et elle a essayé encore, même presque jusqu'avant le Concile Vatican II, vous imaginez. Donc ça prend du temps. Mais maintenant, je crois que c'est le moment où l'Église, et après Vatican II, peut de tout cœur, ça c'est ma conviction, accepter cette culture.
Oui, absolument. Effectivement, vous soulignez à quel point, et là vous vous inscrivez tout à fait dans la ligne du pape François, monsieur le cardinal, vous soulignez à quel point le Vatican II a été prophétique. En fait, l'Église, alors que certains voient au contraire Vatican II comme le tournant qui a signé en quelque sorte le déclin de l'Église catholique.
Ah non, ce n'est pas ma conviction. Hein. Vraiment, je suis convaincu que Vatican II a été un concile vraiment prophétique et nécessaire. Imaginez-vous que en ce qui concerne l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, l'ouverture au monde. Mais sans le Vatican II, on n'était nulle part. Hein. Il faut bien savoir que nous avons connu encore, jusqu'avant le Concile, cette crise moderniste hein, qui a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de détresse et de malheur dans l'Église.
Et vous soulignez que si Vatican II a eu lieu, c'est parce que la société avait changé.
Ça va. C'est ce que le pape Jean XXIII a toujours dit. Hein. C'est le signe des temps. Vous voyez, l'Église a évidemment un message qu'elle adresse au monde, mais elle doit aussi s'ouvrir au monde, parce que là aussi, elle peut discerner ce que le Seigneur attend de nous. Il y a ce que le pape Jean XXIII nomme « signe des temps ». Et là, il faut bien savoir que même pour la liberté religieuse, hein, quand on voit le syllabus de Pie IX, l'Église a eu du mal à accepter même la liberté religieuse. C'est Vatican, c'est finalement la culture moderne qui nous a ouvert les yeux. Et finalement, c'est le Concile qui l'a accepté. Et même, vous imaginez, même au milieu du XXe siècle, il y avait encore des hésitations hein, au sein du Concile. Imaginez-vous, pour la liberté religieuse.
Oui, on a du mal effectivement à l'imaginer.
C'est ça. Mais vous voyez comment l'ouverture au monde... Hein,
et difficile
nous aider
parfois
à comprendre l'Évangile, ce que le Seigneur attend de nous. Ça se passe de l'Église vers le monde et du monde vers l'Église. D'où l'importance de l'ouverture au monde. Ça, je mets fortement l'accent là-dessus. L'Église ne peut pas se définir sans sa relation au monde. Elle n'est pas un monde à côté du monde réel. Elle n'est pas un monde à part. Elle vit dans le monde. Il n'y en a pas d'autre monde que le monde réel. Et c'est là que l'Église doit vivre. Et c'est sa vocation de faire connaître l'amour de Dieu à tous. Et donc, elle ne peut pas se replier sur elle-même. Elle ne peut pas quitter le monde. Parce que le monde appartient à la définition même de l'Église et à sa mission.
Là, effectivement, vous évoquez donc la mission de l'Église. En même temps, à ne pas confondre cette mission, effectivement, ce caractère missionnaire hein, de la mission de l'Église, à ne pas confondre avec le prosélytisme. Vous insistez beaucoup sur le fait que l'Église ne doit pas et n'est pas prosélyte.
Non. Et aussi, ne pas confondre avec christianisation. Ce sont deux concepts importants. Parce que christianisation, ça veut dire qu'on va christianiser la culture elle-même, donc revenir à une culture religieuse et chrétienne. C'est-à-dire, finalement, sans les juifs et sans les musulmans et sans les non-croyants. Ce n'est pas une perspective pour l'Église. Elle ne doit pas christianiser la société, mais, c'est ma conviction, elle doit être présente dans la société. Et surtout, comme le pape dit, jusque dans les périphéries. Elle est là pour annoncer l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et donc, elle a un message d'une humanité, comme le dit le pape maintenant dans sa encyclique Fratelli Tutti, hein, où il appelle dans son introduction à une conscience universelle de fraternité. et d'humanité.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est le cardinal Joseph de Kézel, archevêque de Malines-Bruxelles. Précisément concernant la place de l'Église dans la société moderne, vous écrivez, monsieur le cardinal, que la religion ne doit pas être une affaire privée, que l'Église a un rôle à jouer dans la société.
Oui. D'un côté, je défends la sécularisation. Je dis que c'est notre situation, il faut l'accepter. D'autre part, je me distance d'un certain sécularisme. C'est-à-dire, dans ma pensée, c'est comme ça, une culture sécularisée nous donne le cadre dans lequel nous pouvons vivre ensemble dans la différence, dans la tolérance, non seulement la tolérance, mais aussi de vivre ensemble et de construire ensemble une société plus humaine. Ça, c'est l'objectif d'une culture sécularisée. Mais la sécularisation ne peut pas devenir elle-même une espèce de religion civile ou sécularisée, où elle détermine la pensée unique de la société. Elle ne peut pas remplacer la religion, ce qui a été parfois le cas dans le passé. Je fais référence à cela aussi. Par exemple, le communisme a des traits d'une espèce de religion sécularisée, qui impose la pensée unique à la société, comme c'était le cas dans les cultures religieuses, où on imposait aussi la conception religieuse de la vie. Mais là, la sécularisation doit rester neutre. Et donc la grande question, cette société sécularisée me dit, tu es libre. Et ça, c'est son mérite. Parce que la liberté est une valeur de grande importance pour les sociétés. Mais quand je me demande, quand on se demande, qu'est-ce que je dois faire, cette culture sécularisée dit simplement ce que tu veux, c'est-à-dire l'épanouissement et le plein épanouissement de ta liberté. Mais cette culture ne me donne pas de contenu. C'est une liberté vide, sans contenu. Et ça, c'est ma conviction, c'est là la place des religions. Et pas uniquement des religions, d'autres convictions, même j'accepte aussi que ceux qui n'ont pas la foi peuvent aussi répondre à ces questions et doivent répondre à ces questions, mais entre autres, et notamment le christianisme, peut répondre à ces questions, à cette question fondamentale pour chaque être humain, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Quels engagements vont vraiment la peine d'être vécus? Vous voyez ce que je veux dire? Et cette question-là, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Pourquoi m'engager? Si je m'engage aussi pour une société plus humaine, c'est l'Évangile qui m'y inspire. Et donc, ces choix ne sont pas simplement des choix personnels, mais ce sont des choix qui ont beaucoup de conséquences pour la vie sociétale. C'est pour ça que je dis, le chrétien est un citoyen. Ce n'est pas d'un côté, il est un chrétien dans sa vie privée, et puis il est aussi citoyen. C'est en tant que chrétien qu'il est citoyen. C'est la foi chrétienne qui l'aide à devenir toujours davantage un citoyen responsable, qui ne vit pas uniquement pour lui-même.
Et d'ailleurs, vous citez, monsieur le cardinal, le philosophe athée, Jürgen Habermas, qui dit l'expérience religieuse, finalement, sert à la réflexion sur la société.
Oui. Et je pense que c'est vrai aussi, pas uniquement au niveau théologique ou philosophique, mais aussi réellement, l'Église s'engage quand on voit le message du pape, quand il appelle à une humanité fraternelle, ce message, et qui vient du cœur même de l'Évangile, ce message est pertinent, est crédible, est nécessaire pour l'avenir. Il n'y a pas d'autre avenir. Il faut sortir de cette dynamique l'un contre l'autre. Nous devons construire ensemble cette société. Et là, je suis convaincu, la foi, l'Église, mais aussi les autres religions, ont un rôle très important à jouer dans la construction de cette société. Vous voyez, là, il n'y a la thèse de la privatisation de la foi ne répond pas à la réalité même que nous vivons dans l'Église. Thank you.
question importante dans votre livre qui est, j'allais dire, quand même assez effleurée, mais qui est présente, c'est l'islam. Aujourd'hui, effectivement, non seulement la société n'est plus chrétienne et sécularisée, mais oui, c'est une société sécularisée avec une religion qui, effectivement, va croissant, une religion qui prend une place de plus en plus visible, et cela peut poser, on peut le voir effectivement régulièrement, des réactions. Alors, quelle place pour l'islam dans une société sécularisée ? On la pose, vous la posez pour le christianisme, oui, on oui. peut aussi la poser pour l'islam. Quelle place pour l'islam dans une société sécularisée ? Cardinal Joseph de Kézel.
Ah oui, je pense que oui, l'islam aussi devra se confronter avec et accepter cette culture sécularisée. Si l'islam veut s'installer ici en Occident, il devra petit à petit, et je comprends que ça parfois ça prend du temps, etc. Nous devons les aider aussi à pouvoir accepter cela, mais à mon avis c'est la condition sine qua non hein, pour s'intégrer ici dans nos sociétés occidentales. D'ailleurs, la même question se pose aussi pour les pays musulmans eux-mêmes. Donc là, il faut bien savoir que, et il faut être honnête aussi, et de la part de l'Église un peu humble aussi, nous avons eu besoin beaucoup de temps pour accepter cette culture. Ce n'est pas aller de soi, hein. Et donc il faut, évidemment, il ne faut pas comprendre l'extrémisme, je comprends la peur des gens aussi, hein, parce que, mais on ne peut pas identifier l'islam à cette tendance extrémiste. On ne peut pas. Je vis ici à Malines, où il y a une belle communauté musulmane, etc. Nous vivons en paix. Mais le danger, ce serait que, à cause de la sécularisation et surtout de la tendance séculariste, que vraiment l'islam devienne la seule option religieuse dans nos sociétés. Ça, c'est le danger.
C'est-à-dire, expliquez-vous, vous voulez dire le déclin du christianisme qui amènerait effectivement à cette option qui serait donc la seule option, vraiment, l'islam.
Oui, c'est ça. Si vraiment l'être humain est hors du vide. Le christianisme disparaît oui. ici, en Occident, ce que je ne crois pas. Hein. Mais alors, il ne reste que l'islam. Alors, le danger existe que l'islam devienne religion culturelle. C'est ce qu'on ne veut pas quand même. Hein.
Ce que vous appelez culturel, c'est hégémonique, en fait.
Ah ben, c'est ça. Si je n'accepte plus la christianisation de la société, je n'accepte pas non plus l'islamisation de la société. Je plaide pour une société pluraliste, où chacun est respecté dans ce qu'il est, même s'il est autre. C'est ça pour l'avenir du monde, et pas seulement de l'Église, mais aussi pour l'avenir de la société. Et c'est là le message du pape aussi. Il est d'une importance cruciale qu'on travaille hein, pour une société où chacun, dans sa diversité, est respecté et où il n'y a pas une seule instance ou une seule religion qui domine.
Qui prenne le pas sur
l'autre. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour ce monde, sinon il y aura toujours, comme je viens de le dire, hein, la date de 1648, sinon il y aura toujours des guerres.
Vous écrivez à un moment du livre, monsieur le cardinal, de votre livre dont je rappelle le titre hein, « Foi et religion dans une société moderne », le migrant a le devoir de s'intégrer dans la société qui l'accueille. Il n'a pas le droit d'imposer sa propre tradition à l'ensemble de la société.
Non. Je demande à celui qui vient de l'extérieur ici dans nos sociétés, aussi pour le musulman ou enfin, n'importe. On peut lui demander de s'intégrer dans notre société, c'est-à-dire d'accepter. Pour intégrer, je dis, il doit accepter le cadre d'une société sécularisée. Je ne demande pas l'assimilation. Il ne doit pas nier
sa tradition.
Sa tradition, tout ce qui fait ce qu'il est. Ça, on ne demande pas. Ce serait une perte de richesse pour l'humanité.
Mais vous parlez de devoir d'intégration.
Oui. Pour moi, la sécularisation, c'est le cadre dans lequel on peut vivre ensemble dans la diversité et dans le respect de l'autre. Ça, il doit accepter. C'est un peu le danger de l'extrémisme qui veut faire de nos sociétés ici, des sociétés musulmanes. Mais je crois que je suis logique. Hein. Je ne veux pas non plus une société chrétienne et j'espère qu'on me comprend bien. Je plaide pour la présence active, confessante de l'Église dans cette société, Mais ce n'est pas la société qui deviendra Église. L'Église n'est pas le monde, elle vit dans le monde. Et ça a été, à mon avis, une des intuitions les plus fondamentales du Vatican II. C'est la constitution Gaudium et Spes. Ce n'est pas l'Église et le monde, ou l'Église qui devient monde, mais c'est l'Église dans le monde. Le monde est plus grand que l'Église.
Et l'Église n'est pas un ghetto.
Elle n'est pas un ghetto. Ah non, c'est ça. Elle vit dans le monde, mais dans le monde, je ne vais pas simplement dire, elle doit vivre quelque part. C'est la dernière citation de mon livre. C'est une citation, c'est le début de la constitution Gaudium et Spes, où le premier paragraphe, c'est pourquoi l'Église sait par expérience qu'elle est réellement et intimement solidaire de l'humanité et de son histoire. C'est un très très beau paragraphe, pour moi, un des plus beaux de Vatican II, où l'Église dit « Nous partageons les joies et les espoirs, mais aussi les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps et de ce monde. » Pour moi, dans mon livre, c'est l'idée centrale. L'Église ne peut pas se définir sans sa relation au monde. Elle est là pour le monde. Elle est peuple de Dieu, ça j'explique aussi dans ma partie théologique, mais elle est sacrament du monde, sacramentum mundi. Le monde appartient à la définition même, et je le dis même au début, ce que le Seigneur ou Dieu a en tête, ce n'est pas uniquement c'est le monde qu'il veut sauver.
Nous nous acheminons vers la fin, oui, monsieur le cardinal. Oui. Moi, j'ai retenu une autre phrase, c'est celle du pape François à Rabat, en 2019, dans la cathédrale de Rabat, oui, qui en somme dit, finalement, ça n'est pas la question du nombre de catholiques, oui, oui, c'est que celle de l'évangile est toujours la même portée, la même force.
C'est ça. Et il a dit, ce n'est pas d'être nombreux, mais le danger, c'est d'être insignifiant. Insignifiant. Je crois que c'est la parole la plus dure que j'ai entendue du pape, mais c'est vrai. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais on peut se réjouir que nous sommes nombreux. Moi, je ne plaide pas pour une église, mais on est ce qu'on est. Et on est dans la joie quand il y a quelqu'un qui découvre la beauté de l'évangile. Mais ce qui est important, c'est de, même quand on est moins nombreux, on peut signifier beaucoup. Non seulement pour les gens d'église, mais aussi pour le monde.
Je vous remercie, monsieur le cardinal, oui, pour cet échange.
Oui.
Je rappelle le titre de votre livre, Foi et religion dans une société moderne, et c'est publié aux éditions Salvator. Merci. Oui.
Merci, merci. Merci, grand merci.
C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.